La petite loupiote s'allume devant. Hein, là, ça tourne le compteur. Oui. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus. Pas si nombreux que ça, mais il n'y a que les convaincus qui sont venus. Donc, je vous explique pourquoi je vous ai proposé ça. Bien sûr, pour l'objet de la petite causerie, mais également parce qu'on a un conférencier qui était initialement prévu, qui a disparu du circuit. Et donc, il y avait un trou. Et donc, je comble le trou. Hein, voilà. Et donc, c'est l'occasion de faire un petit exposé sur l'usage du site Internet. Alors, on va voir si ça marche toujours. Voilà. Donc, en principe, même, je suis enregistré sur la visioconférence. Hein. Bien. Alors, déjà, quelques généralités, puisqu'on a peu l'occasion d'en parler dans le détail. Pourquoi a-t-on fait un site Internet ? On va dire maintenant tout le monde fait son site Internet. Si on n'a pas son site Internet, on n'existe pas, on est inconnu au bataillon, ce qui est vrai. Hein. Mais au-delà de ces commentaires, on avait des ambitions un petit peu plus grandes que d'avoir simplement un site Internet pour, disons, exister médiatiquement sur le net. Ces ambitions, et elles sont en augmentation perpétuelle, ces ambitions, c'est d'avoir un outil au service de nos adhérents et de telle manière qu'ils aient des informations en temps réel sur nos activités, en particulier sur les conférences, pour lesquelles il peut y avoir des changements de dernière minute, de dernière seconde, etc., etc. Et c'est pour ça que quand on a fait faire le développement de ce site, on a demandé qu'il soit compatible avec les outils modernes, entre guillemets, les outils modernes qui sont les tablettes. Alors vous ne vous baladez pas avec votre tablette dans votre poche, mais surtout les téléphones, les smartphones, comme on dit, téléphones intelligents, avec des écrans tactiles qui permettent d'afficher d'une façon synthétique le site tel qu'on peut le voir sur le PC à la maison, si vous voulez. Et pour des raisons évidentes, pour qu'on puisse lire quelque chose sur le smartphone, eh bien, on a pris des caractères qui sont assez gros, ce qui pour nos générations, ce n'est pas forcément un inconvénient. Hein, de telle façon que la lisibilité sur les petits appareils soit raisonnable. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de balayer très rapidement les fonctionnalités actuelles du site et qui vont encore évoluer l'année prochaine. Donc, le site, la page d'accueil, il y a un petit bandeau qui reprend quelques photos significatives des thèmes qui sont développés dans l'année. On le change une fois par an, donc notre logo, notre intitulé plus exactement. Et en haut, on a des petits boutons, si vous voulez, qui permettent de se connecter, de se déconnecter. Alors ça sert pour le moment, pour l'essentiel, pour les gens qui ont pris la cotisation complémentaire pour avoir accès aux images et aux sons. Donc là, je me suis déjà connecté. Et donc, quand je vous montrerai les contenus, évidemment, ça m'évite de faire cette opération-là. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, dans l'accueil, ça, c'est toujours une difficulté de dire qu'est-ce qu'on peut mettre pour avoir le maximum de choses tout en les gardant lisibles. Eh bien, on a le menu principal ici, des actualités, j'y reviendrai, un bouton inscription à l'UTB. Alors, pourquoi est-il fait ce bouton ? Eh bien, c'est fait pour qu'à moyen terme, en principe l'année prochaine, que vous puissiez vous inscrire pour l'année suivante, si vous voulez, ce que l'on fait d'habitude par la poste, c'est-à-dire les gens qui ne viennent pas, qui envoient leur chèque par la poste, dire « eh bien, je me suis inscrit pour l'année suivante ». Donc, il y a toute une procédure qui est expliquée dans une page d'aide qui consiste à dire « eh bien, on vous donne un numéro d'adhésion, si vous voulez, et après, dès qu'on a reçu le chèque, on valide le fait que vous avez bien payé votre cotisation pour l'année suivante, si vous voulez. Ça vous évite de vous déplacer, mais c'est optionnel, si vous voulez. Vous pouvez continuer, on adore vous recevoir, mais quelquefois, au mois de septembre, c'est un peu la foule et c'est un peu difficile de dialoguer avec les adhérents. Alors, donc, des actualités. Là, un petit diaporama qui reprend également des images des thèmes qui sont traités dans l'année. Et ensuite, des alertes diverses et variées, des nouveautés, les ouvertures du secrétariat, l'accès aux documents et enregistrements. Et ça, je le mets en permanence parce que l'expérience montre que même des gens qui ont payé la cotisation en faisant une petite enquête ne se servent pas de cette fonctionnalité. Donc, et surtout, on a ici, en calendrier glissant, les 6 prochaines conférences qui vont se passer. Donc vous voyez celle d'aujourd'hui, elle apparaît ici. Et une fois qu'elle sera faite, si vous voulez, demain, elle va disparaître automatiquement de la page d'accueil et ce sera celle-là, le canal du Panama, qui arrivera en tête, si vous voulez. D'ailleurs, on réfléchit en ce moment sur le fait de faire apparaître cette liste-là finalement plus haut, de telle façon que ce soit les choses qu'on voit en direct, et puis de mettre une ligne ici, qui soit au-dessus, où il n'y ait que les alertes, c'est-à-dire les conférences qui sont annulées, ou les changements de salle, ou des choses comme ça, si vous voulez. Pour qu'on n'ait pas besoin d'aller dans le bas de la page pour découvrir cette information. C'est ça qui est toujours difficile dans un site Internet, c'est de dire, il faut que l'information actuelle, et, du jour, chaude, apparaisse d'une façon la plus claire possible. Alors, c'est pas facile à faire parce qu'on a beaucoup d'autres choses également à mettre. Comment faire pour la mettre en lumière? Donc, on fait quelques essais. Donc, on est en train de regarder, on est en train de faire un pilote où on aurait une ligne, si vous voulez, avec un encadrement rouge ou quelque chose comme ça qui permettrait d'attirer l'œil des gens. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle les téléchargements, donc pour avoir le fameux bulletin dont on parle en permanence. Alors, je le redis pour la NP plus PIM fois, nous ne vous envoyons jamais le bulletin. C'est vous qui le téléchargez. Nous vous envoyons le lien sur le bouton qui vous permet de l'amener chez vous. Quand ça marche, hein. Les gens nous disent toujours vous ne m'avez pas envoyé le bulletin. On n'envoie pas le bulletin, si par la poste, mais on vous envoie le lien pour le télécharger. J'insiste beaucoup sur cette subtilité, c'est pas la même chose. Ensuite, on a la plaquette, mais là, si vous voulez, c'est à titre informatif, puisqu'on vous donne les plaquettes papier, c'est quand même plus facile à manipuler. Ça, c'est surtout intéressant pour les gens qui sont loin et qui veulent avoir des informations sur l'ensemble de notre programmation de l'année, d'une façon synthétique, eh bien, de télécharger la plaquette orange que vous connaissez tous. Là. Et ensuite, archive 2006-2016, c'est l'ancien site, si vous voulez. L'ancien site est toujours en ligne parce qu'on a encore quelques informations qui sont intéressantes. On est en train actuellement de charger les archives depuis 2006, des conférences, tout ce qu'on a, sur le site nouveau. Et à moyen terme, cet ancien site va disparaître des radars, si vous voulez. C'est surtout nous qui nous en servons, si vous voulez, parce que de temps en temps, il y a un conférencier qui était venu il y a quelques années, on ne se souvient plus exactement à quel moment il avait fait une conférence, donc ça nous permet de le retrouver plus facilement. Ensuite, de la pub pour les ouvrages, ici, et pour la page de garde, c'est tout. Donc ensuite, la présentation. Alors évidemment, vous connaissez tous l'UTB, mais ça c'est intéressant pour les personnes qui sont nouvelles, si vous voulez, qui veulent faire un peu connaissance avec le mode de fonctionnement de l'UTB. Donc vous avez à propos de l'UTB, renseignements pratiques, conseil d'administration, dont vous reconnaissez quelques têtes célèbres, etc. La vie interne, on vous explique comment ça fonctionne à l'intérieur d'une façon très synthétique. Partenaire, et on est partenaire avec tout le monde, par définition. Donc ça c'est pas une... encore une fois, vous voyez qu'il y a deux types de communication, la communication locale avec nos adhérents, mais la communication lointaine avec des gens qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent mal ou qui viennent d'arriver en disant « mais l'UTB, qu'est-ce que c'est ?» hein ? Donc c'est utile d'avoir ça. Évidemment, les gens qui sont ici dans la salle ne lisent pas tous les jours la présentation de l'UTB, bien évidemment. Alors, actualité, comme le nom l'indique, c'est des événements très particuliers, en général pas forcément des gens qui sont des activités qui sont de l'UTB, mais des partenaires qui font une manifestation particulière, une exposition, une animation, etc. Par exemple, vous voyez Mathieu Pinette, eh bien, comme nous, une plaquette annuelle maintenant, et donc on la met en permanence sur notre site, c'est-à-dire on renvoie l'ascenseur à toutes les associations culturelles avec lesquelles on travaille pour passer leur publicité, ce qui est tout à fait normal. Et de temps en temps, on leur demande s'ils ont des outils du même type de faire la même chose à notre égard. Alors ça, c'est repris, si vous voulez, d'une façon synthétique, avec des petites icônes. Ici, c'est la même chose. Hein. Là, vous avez la page actualité, et là, c'est un résumé de la page actualité. Et on arrive sur le socle, si vous voulez, du site. Ce sont les conférences. Alors, les conférences n'apparaissent visuellement que les conférences de l'année, hein, du début octobre jusqu'à fin avril ou début mai. Et les conférences anciennes ne sont pas visibles au sens de la présentation ici, mais elles sont en archives. Et les archives sont où ? Elles sont là. Alors, voilà, vous voyez, on commence à avoir chargé des archives, puisqu'on dispose d'un patrimoine de documents et de sons, d'enregistrements, qui a commencé pratiquement en 2006, hein, en format numérique. Donc c'est un peu bête de les laisser au frigo, donc maintenant on va les mettre à terme à disposition de tout le monde par l'intermédiaire de ces menus. Mais ça, c'est mon équipe Internet, il n'y a personne de l'équipe Internet qui est là, évidemment ils savent s'en servir. Donc j'ai 4 personnes, 4 adhérents, hein, Jean-Marie Doll, Jean-Marie Plingard, Pierre Diftin et Jean-Claude Hervieux, où on se partage le travail. C'est eux qui chargent les conférences au début de la saison et c'est eux qui font ce travail d'archivage, si vous voulez, au fur et à mesure. Ça nous dégage un petit peu des choses. Parce que la difficulté, ce qu'on appelle le webmaster, c'est-à-dire ranger les contenus dedans, eh bien, on peut dire c'est partager moitié-moitié entre Muriel et moi. Et pourquoi c'est moi qui fais ça ? Tout simplement parce que j'ai les informations les plus récentes. Donc c'est moins difficile de le faire moi-même que d'expliquer à quelqu'un d'autre de faire la même chose. Je gagne du temps, si vous voulez, à la maison. Je fais une modification d'une heure ou d'une information et tout, ça me demande quelques minutes. Mais tous les jours, il faut faire un certain nombre de choses, ne serait-ce que charger les documents et le son qui a été enregistré. Si vous suivez bien ce qui se passe, c'est en général, parce que si on ne le fait pas au fur et à mesure, en général, le son et l'image de la conférence du jour, elle est chargée le soir. Donc vous regardez le lendemain, c'est déjà actif. Les années précédentes, je faisais d'autres choses, et puis passé un moment, il y avait 10 jours de retard, et après, ça me faisait du travail accumulé, donc c'est plus simple de le faire à l'avancement. Alors, on va. Vous voyez qu'il y a des couleurs ici. Alors, ces couleurs, elles sont arbitraires, mais en fait, j'ai essayé de faire des couleurs qui correspondent à des thématiques un petit peu générales. Puisque vous voyez que sur la gauche, il y a les thématiques. Alors, je vais prendre un cas très typique, l'histoire de l'art. Et vous voyez que toutes les conférences d'histoire de l'art, elles sont dans des tonalités jaune, rouge, orange. Si vous voulez, ça permet visuellement, sans même regarder le titre détaillé de la conférence, d'identifier. Moi, il n'y a que l'histoire de l'art qui m'intéresse. Donc, si je ne vois pas de rose ou d'orange ou clair et tout, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de l'art. Et j'ai même pas besoin de regarder dans le détail les titres, si vous voulez. Hein. Bon. Et pareil, bon, l'histoire c'est plutôt bleu. Je me souviens plus exactement, je vais prendre l'histoire par exemple. Histoire, vous voyez, on est dans les bleus. Il y a un peu de vert, parce que c'est de l'histoire d'informatique, donc c'est à cheval sur l'histoire et la science. Et la science, c'est plutôt vert, je crois. Alors, on va prendre science et technique, je ne me souviens plus. Hein, voilà. Donc vous voyez toutes les conférences scientifiques, elles passent du vert fluo. Hein. D'ailleurs, le gars du site m'engueule tout le temps parce qu'il dit c'est trop clair, on n'arrive pas à lire les lettres. Hein. Et au vert foncé, pour les choses sérieuses. Hein. Voilà. l'astronomie, par exemple. Donc vous comprenez la logique des couleurs. C'est un repère visuel rapide qui permet de sentir la tonalité. Et quand on affiche tout, quand on affiche tout, pourquoi j'ai... Ah bah oui. Non mais il faut sortir du filtre. Voilà. Voilà. Quand j'affiche tout, vous voyez que nous essayons également, parce que ça c'est dans la programmation, de faire un mix le plus équilibré possible, c'est-à-dire ne pas avoir une semaine complète d'histoire de l'art et après une semaine complète de choses scientifiques. On essaye de faire un mix, ce qui n'est pas un exercice facile, parce qu'en plus, il y a les contraintes des salles, des conférenciers, effectivement. Moi, je voudrais bien venir tel jour, non, je ne peux pas tel jour, etc. Donc c'est pour ça que dès maintenant, on est en train de faire le calendrier, on est en train de programmer des conférences en avril 2017, aujourd'hui. Hein, et c'est Muriel et Liliane Doutet qui s'occupent de ça. Et puis elle me demande de temps en temps des indications. Voilà. Alors ensuite, prenons une conférence au hasard. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. Alors, une conférence, là écoutez bien. La conférence n'a pas eu lieu. Donc si vous êtes quelqu'un de sérieux, et tous ceux qui sont venus ici, bien sûr, sont sérieux, donc avant de venir, vous allez plus loin que le titre de la conférence, vous allez regarder de quoi on va parler. Alors je rappelle que dans le bulletin papier, c'est les petites lettres, toutes petites, détails des conférences, que personne ne lit jamais parce que la taille des caractères... non mais enfin, je blague. Hein. La taille des caractères ne s'y... Mais si, voilà. J'aime bien que vous protestiez, voilà. Parce que vous êtes des gens sérieux. Et, au moins toi, tu lis les petites lettres. Surtout que comme tu n'as pas Internet, tu attends le bulletin comme le Messie. Voilà, donc tu es obligé de lire les résumés. Voilà. Donc ce résumé, ben, c'est le même qui apparaît ici, en fait. Hein. En quelques mots, vous avez le contenu de la conférence. Ce qui n'est pas complètement inutile, enfin, je vais citer un cas, c'est Annick Spey, vous savez, qui a la spécialité de changer ses titres et en lisant les titres, on a un peu de mal à savoir de quoi ça va parler. Hein. Donc, on fait un effort, parce que obtenir des résumés des conférenciers, c'est un sport de haute voltige. Hein, et je peux vous dire que Muriel les harcèle du matin jusqu'au soir par mail, par téléphone, et on arrive en général à 80-90% des conférenciers qui nous donnent des résumés. Quand je suis arrivé, il y en avait 10%. Donc on a fait des progrès, et les conférenciers aussi. Mais on les mène un peu à la baguette, hein, comme vous le savez. Voilà. Alors ensuite, vous avez donc ici... Le nom du conférencier, la date, la salle et les horaires. Quand vous regardez le nom du conférencier, je vais aller directement là-dessus. Alors là, il n'y a pas un CV très détaillé, mais on a au moins en général sa photo et son titre. Alors ensuite, deuxièmement, le lieu. le lieu, vous avez la, c'est à la maison des syndicats. Alors, il y a déjà 1000 personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec le lieu? Tout le monde sait où est la maison des syndicats. Eh bien, déjà, pas les conférenciers. Et je vous signale que les conférenciers sont bien contents de savoir où est la maison des syndicats. Et le fait qu'il y ait un plan, ça les arrange bien. Et puis également, des personnes nouvelles inscrites à l'UTB, qui viennent juste d'arriver dans la région chalonnaise, bah, c'est pas inutile de le savoir. Et troisièmement, de temps en temps, vous le savez, on va dans des salles un peu exotiques, comme au Studio 70, ou dans le lycée Trucmuche, ou dans la salle machin, et tout et tout, et c'est pas inutile de savoir où ça se passe. À Nice et Forcité, voilà, hein, au conservatoire, etc., etc. Bon, les gens savent où est le conservatoire, mais enfin, on peut aller dans des salles un petit peu inhabituelles, pour des raisons diverses et variées, eh bien, on fait l'effort, c'est pas très difficile à mettre en place pour ce qui nous concerne, donc d'avoir ça, toujours pareil, avoir le souci non seulement de la communication avec nos habitués, mais également avec des gens qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal. Et ensuite, on a le troisième onglet qui sont les documents, hein, et le son. Alors, le document. Alors, quand vous cliquez sur ce document, sur le bouton bleu, si ça marche, semble-t-il, ça va marcher, le document que le conférencier nous a confié apparaît à l'écran. Et ensuite, je vais revenir en arrière, on veut écouter le son. Alors, je vous apprends un petit détail d'utilisation du navigateur que, à ma connaissance, j'ai constaté que très peu de personnes connaissaient. C'est pour la technique des onglets. Vous voyez ça? Alors, qui ne connaît pas les onglets? Bon, vous êtes honnête, c'est bien. Donc, depuis déjà à peu près 10 ans dans les navigateurs, il y a des onglets. Et vous ne vous en servez pas, c'est-à-dire vous regardez quelque chose sur Internet, quand vous avez fini, vous fermez la page et vous voulez faire une nouvelle recherche, vous rouvrez la même page et vous faites une autre recherche. Les onglets, ça sert à quoi? C'est à faire apparaître simultanément plusieurs pages et suivant l'onglet sur lequel on clique, les pages sont ouvertes en parallèle, si vous voulez. Évidemment, il n'y en a qu'une qui apparaît à la fois. Et là, donc, je vais aller, et là, pour faire apparaître un nouvel onglet, on appuie verticalement sur la petite molette centrale de la souris, ici. Est-ce que vous connaissez cette technique-là?
Non, on l'apprend, c'est bien.
Voilà, ben c'est fait pour ça. Donc, il y a deux techniques pour avoir un nouvel onglet. Je ne me souviens plus comment on fait, ça doit s'appeler CTRL-N ou CTRL-W. Attendez, je vais regarder, je ne me souviens plus. Il n'y a pas de menu, là. Bon, enfin, moi, j'utilise que ça. Si vous voulez, vous appuyez... il y a trois boutons sur la souris, comme vous l'aviez déjà remarqué. Le bouton gauche, le bouton droit et le bouton central. Alors, le bouton central, on pense à la molette, mais c'est également un clic. On peut appuyer verticalement sur le clic. Si je fais... je vais le faire, évidemment, vous ne voyez pas de loin. J'appuie au milieu, ici... sur le bouton audio, regardez ce qui se passe en haut. Et vous voyez qu'il est apparu un nouvel onglet simplement en faisant cette petite manœuvre. OK? Et là, vous pouvez écouter le son en appuyant là-dessus. Alors, j'espère que ça va marcher.
Autour qui lui revient. C'est un territoire incontestablement allemand. Les Polonais ont donc le petit morceau qui est ici, et dans les années 20, malgré les avantages obtenus dans la ville de Gdansk grâce au traité de Versailles.
Vous reconnaissez la voix de Robert Kasprick. Donc, si vous voulez vous arrêter là, alors, l'intérêt de ce petit lecteur, c'est que si vous voulez zapper Mes discours préliminaires, mais en principe, je ne les enregistre pas, donc ils ne sont pas dans l'enregistrement, mais je peux faire une fausse manœuvre. Donc vous pouvez, parce qu'au début, la mise en chauffe est un petit peu longue, si vous voulez rentrer directement dans le discours, vous faites coulisser ce petit onglet ici, et là, vous êtes au milieu de la conférence.
Pour un certain nombre d'entre eux, on réussit à passer en Angleterre, avec le gouvernement. Et donc, première étape.
À vous remarquer la qualité du son. Hein, pourquoi la qualité est bonne? C'est tout simplement parce qu'on prend, avec tout notre matériel ici, on prend le son directement sur le micro-cravate. C'est-à-dire qu'on n'entend pas qu'on est dans la salle. Il n'y a pas de réverbération. Il n'y a pas de réverbération. Alors, en plus, l'intérêt de cette manœuvre, si vous voulez, c'est que vous êtes là et vous... Alors, je vais me mettre au milieu, à peu près, je ne sais pas où il en était.
Alors, pays partagé, à l'ouest, la terreur nazie, à l'est, la terreur soviétique. À l'ouest, la terreur nazie s'en prend d'abord aux juifs, mais aussi aux Polonais non-juifs, et c'est le grand reproche que beaucoup de Polonais font aux Occidentaux, vous nous parlez sans arrêt de ce que les juifs ont subi,
donc
vous nous oubliez.
En clair, vous pouvez, là j'ai choisi un peu volontairement cet exemple-là, écouter le son en tournant vous-même les pages. Parce que l'explication, le laïus, vous donne une indication sur l'avancement des planches.
Les Allemands commencent à recenser les Juifs et puis à les regrouper dans le vrai ghetto, cette fois-ci, n'est-ce pas, dans les villes, en particulier à Varsovie, à Łódź, et puis plus tard à Vilno. C'est en 1941 que commence le premier massacre collectif de juifs. Ces massacres collectifs, c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. On aura...
Donc vous avez compris. Donc le secret d'utilisation de... Oui ?
Il n'y a pas de cible, il n'y a pas de concordance entre...
Non, il n'y a pas de concordance. Ben non, il n'y a pas de concordance. La seule façon de faire la concordance, c'est la visioconférence. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ça... Le défilé de tout ce que vous voyez ici va être synchrone avec ce que je raconte. Vous verrez ma trombine, mais enfin ça n'apporte rien d'exceptionnel. Par contre, vous avez le synchronisme automatique. C'est pour ça qu'on fait des essais déjà depuis plusieurs années pour maîtriser cet outil qui est quand même un petit peu délicat de manipulation, si vous voulez. Mais c'est l'avenir, il n'y a pas de doute. Hein. Mais pour ça, il faut que la restitution audiovisuelle, elle soit dans une fenêtre qui aille bien, qui soit intégrée à notre site internet. Et ça, bah, c'est la phase 3 de notre plan, si vous voulez, de développement.
Les conférences actuellement enregistrées ne sont pas jumelées avec le système ?
Non. Il n'y en a que quelques-unes dans l'année. Déjà, la contrainte, c'est qu'il faut qu'on soit physiquement ici. Pour avoir la visioconférence, il n'y a pas d'équipement équivalent dans les autres salles. Donc, quand on est ici, on en profite. Et c'est pour ça que depuis les 15 jours qui viennent, on va essayer d'en faire le maximum, puisqu'on a la chance de disposer de l'équipement. Et d'abord, ça nous apprend, nous, à nous servir du matériel. Et on va voir le résultat tel qu'il est. Hein. Bien. Alors, il y a une autre façon d'utiliser le son et les images, surtout le son, c'est d'enregistrer le son. Alors, pour enregistrer le son, vous faites comme ça. Clique droit sur le bouton bleu et vous faites enregistrer la cible du lien. Alors, c'est dans Internet Explorer, mais enfin, il y a des commandes équivalentes dans les autres navigateurs. Donc, qui vous charge le fichier son sur votre ordinateur. Parce que la contrainte de ce que je vous explique actuellement, c'est d'être physiquement devant votre écran. Ça dure une heure et demie. Il faut être patient et suivre la conférence pendant une heure et demie. Et vous savez bien qu'on n'est pas patient, donc c'est quand même un peu casse-pied de rester devant son écran pendant une heure et demie. On regarde bien la télé, vous allez me dire. Hein. C'est une contrainte. Alors, une autre façon d'écouter les conférences, parce que dans beaucoup de cas, l'image a moins de poids informatif, c'est de n'écouter que le son, donc comme si on était dans une conférence classique. Et donc vous, soit vous mettez ça sur votre ampli dans votre salle de séjour ou dans l'endroit où vous vous trouvez, soit vous, comme vous êtes moderne, vous avez des petits baladeurs MP3 comme les jeunes avec les casques. Et vous pouvez écouter chez vous, dans la rue, des conférences. Et je connais quelques personnes qui font ça. C'est-à-dire, en général, des dames, j'en connais quelques-unes qui font ça, qui écoutent ça en faisant des travaux ménagers, typiquement leur passage. Et donc, on écoute une conférence de Madame Roux en passant son linge. Voilà. Alors, pour faire ça, vous enregistrez, vous collez le fichier sur votre baladeur et ça va très bien. De la même façon, si tel ou tel, je reviens sur les documents, il y a un PowerPoint où il y avait beaucoup d'informations que vous voulez pouvoir consulter indépendamment de l'accès à Internet, eh bien, vous faites de la même façon, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et vous pouvez le regarder après indépendamment, même sans écouter le son. Alors ça existe depuis que nous avons le nouveau site, hein, le son et images, et on va dire globalement ça fonctionne bien. Les conférences enregistrées partout. Quand on a notre matériel audio, c'est-à-dire quand on est à la maison des syndicats, on a un autre magnétophone qui est dans notre matériel de salle là-bas. Et quand on est n'importe où, on emmène. C'est pour ça qu'on a acheté cette valise, si vous voulez. C'est-à-dire dans toutes les autres salles, hormis la maison des syndicats, on dispose d'un matériel d'enregistrement. Donc, sauf si on se plante, ce qui nous arrive à peu près une fois sur 20, parce qu'on a fait une fausse manœuvre dans les branchements ou dans les boutons, donc on a des enregistrements audio de toutes les conférences. Hein. Et on a les documents que nous donnent les conférenciers. Alors, on va dire, il y a déjà 20% de conférenciers qui n'ont pas de support visuel. Hein, je prends un exemple, c'est le Quiddic, par exemple. Lui, il n'y a pas d'image, il n'y a que du son, mais le son suffit, hein, avec le Quiddic. Là, on n'a rien. Et il y a d'autres personnes qui ont des très belles images et qui ne veulent pas les donner. Alors, je cite des noms, Damien Capelazzi. Hein, lui, dans son cas, pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il considère que c'est une activité commerciale et c'est sa propriété. Ce que vous avez remarqué, Capelazzi, la qualité de ses images, c'est vraiment des images en très haute définition parce qu'il fait des zooms à mort et c'est de très bonne qualité. Et ça, ce n'est pas des images qu'on trouve sur Internet. Hein. Donc ça, c'est un plus. Mais je n'ai pas encore trouvé la petite manip qui va lui pirater d'une façon sauvage ces images, mais on y réfléchit sérieusement, parce que ça fait déjà 5 ans qu'on l'enregistre sans qu'il s'en aperçoive. Et donc on a le son. Mais effectivement, sur l'histoire de l'art, le son seul, vous allez me dire, avec Capelazzi, on a quand même, c'est quand même un peu une pièce de théâtre, hein, si on n'a pas le support visuel en simultané, ça gâche un peu. Par contre,
quand il décrit un détail,
comment, oui,
quand il décrit un détail, il faut se souvenir de ce qu'on a vu.
Oui, bien sûr, c'est pas possible. Histoire de l'art, il faut voir les images. Alors, on a un très bon exemple, ce sont les conférences de Mathieu Pinette. Faites l'essai d'écouter les conférences de Mathieu Pinette, et alors là, vous vous retrouvez dans l'ambiance de la conférence. Alors je rappelle, pourquoi on avait fait ça tout à fait au départ? Tout simplement parce que la fonctionnalité première, c'est les gens qui ratent la conférence, en disant « Monsieur Machin ou Madame Truc, je suis fan, mais ce jour-là, je ne suis pas là ». Et je voulais absolument écouter tel ou tel conférencier, ou telle conférencière, ou tel sujet. Et il y a beaucoup de. J'ai des amis, là, Monique, hein, qui vient quasiment jamais aux conférences, qui écoute toutes les conférences et qui regarde toutes les conférences de l'UTB chez elle, devant son écran. Bon, on a toute la gamme, c'est-à-dire de rien à tout. Hein. Donc c'est souple, voilà. Mais la motivation initiale, c'était vraiment de permettre aux gens de ne pas perdre une occasion d'assister à telle ou telle conférence. Donc cette fonctionnalité-là, c'est vraiment la fonctionnalité de base, hein. Et donc je reviens sur la chose ici. Donc vous avez un module, parce que maintenant vous le savez, il y a beaucoup de conférences. Vous avez un module de recherche. Alors je veux une conférence. Ah bah tiens, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a fait une conférence sur Klimt. Hein, ça me dit quelque chose. Alors je tape Klimt. J'essaye de pas. Je suis pas sûr. Il doit y avoir deux T. Ben je suis pas sûr. Hein? Alors, vous faites rechercher, c'est magique, et on trouve la conférence. Et voilà, ça vous évite de balayer dans tous les sens les listes. Voilà. Alors, je reviens en arrière. J'ai fait remettre un bouton « Vider le formulaire » pour repartir à zéro. Et alors, je ne me souviens plus de ce qu'il a fait, mais j'adore Capellazzi, ou je déteste, mais j'adore Capellazzi. Alors, je prends la liste des conférenciers, et je vais sur Capellazzi, il doit être là, quelque part. Voilà. Vous faites rechercher, et voilà tout ce qu'a fait Capellazzi depuis qu'il est chez nous. OK ? C'est magique. Vous avez bien fait de venir, hein, vous découvrez des choses, c'est fait pour ça. Hein. Alors, par contre, moi je n'aime que les choses qui parlent du cinéma. Alors là, j'efface. Alors pour effacer un machin, on va en haut, voilà, on fait comme ça. Rechercher. Et voilà, toutes les conférences sur le cinéma. Enfin, une partie des conférences sur le cinéma. C'est pas tout rentré encore. Et donc, il y a des conférences qui ont été faites en 2013-2014. Non, mais on en a de plus anciennes qui ne sont pas encore chargées. Et vous avez encore une autre façon de retrouver les choses, c'est d'encadrer avec des dates. C'est-à-dire, moi j'étais en vacances du 15 octobre au 30 octobre de l'année dernière, et absolument, mais par contre, je ne sais pas ce qui s'y est fait. Oui. Eh bien, justement, si vous faites l'essai, on ne trouvera rien. Voilà. Non, mais vous sélectionnez des dates et puis vous pouvez trouver des choses. Mais enfin, de mon expérience, c'est essentiellement dans l'ordre. En général, on recherche sur le conférencier, ensuite on cherche sur le mot-clé et on trouve assez facilement les choses. Voilà. Alors ensuite, les conférenciers, eh bien, il y a une base conférencier. Alors avant, c'était un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup de conférenciers, vous voyez, vous avez les... Et vous avez également maintenant un moteur de recherche qui vous permet de rechercher le conférencier. Il n'y a pas longtemps, il y a seulement 10 jours qu'il est en place, hein, parce qu'avant, c'était multipage. Et quand on voulait quelqu'un qui commence par Z, il fallait faire tourner les pages. Voilà. Donc c'est rentré. Mais alors, par exemple, j'en prends un, hein, au hasard, mais... Monsieur Djebar. Ah, Monsieur Djebar, il a un CV de ministre, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'il était ministre. Hein, et on voit tout son... Et par exemple, on a un chapitre, publication. Alors vous regardez ce qu'il a publié. OK. Bon, évidemment, j'ai pris... exprès un exemple où il y en a beaucoup, parce qu'en fait ce sont des gens qui sont connus sur internet et qui ont des fiches Wikipédia et où on a toute leur bibliographie, donc sans vergogne on fait copier-coller, on le colle dans notre site, c'est fait pour ça. Alors je reviens en arrière. Ensuite, groupes et ateliers. Alors ça c'est moins connu. Et ça va évoluer encore dans l'année qui vient. Les conférences, au niveau fonctionnel, il n'y a pas de lien entre un adhérent et des conférences, puisque notre formule, c'est une formule au forfait à l'année. Donc, quand on a payé à l'année, on peut aller à n'importe quelle conférence. Et on ne fait pas encore pointer les gens à l'entrée des conférences. Je vous signale que dans la plupart des autres UTB, les gens signent des fiches d'accueil. Ok, donc on a encore échappé à ça, hein, voilà. Mais peut-être que je vais vous mettre une puce ou une carte magnétique pour que quand vous passiez à la porte, vous soyez identifié. Non, je blague. Hein. Par contre, groupes et ateliers, il y a bien un lien entre des inscrits à ces groupes et ateliers, surtout s'ils payent une cotisation spécifique, et une activité. Donc ça fait quasiment un an et demi qu'on travaille d'une façon assez avancée, et maintenant on a une possibilité qui n'est pas encore mise en ligne, mais qui a été testée, de faire un lien entre les inscrits à l'atelier d'anglais de M. Bullet et les calendriers de M. Bullet et la fiche de présence chez M. Bullet, c'est-à-dire on va supprimer tous les papiers. C'est développé, c'est testé, mais on va le mettre en ligne en septembre prochain. Alors nous, ça va nous simplifier la gestion, parce que je peux vous dire que Muriel, elle a beaucoup de tableurs Excel, comme vous le savez, elle en a à peu près une quarantaine, et elle jongle entre tout ça, les salles, les ateliers, les conférenciers, les dates, et tout. Elle a tout ça dans la tête, mais quelquefois, elle est un peu à la limite de la rupture, si vous voulez. Hein, ça, c'est clair. Ah, ici, sur la gauche, vous avez les différentes activités, et j'en prends une qui est celle qui est la plus développée, c'est Histoire de l'art. Alors, vous avez tout ce qui a fait Mathieu Pinette depuis le début, et donc c'est classé par ordre, enfin les plus récentes sont en haut. Hein. Alors l'atelier qui est en cours, c'est Femmes peintres. Alors pour les ateliers d'histoire de l'art, c'est Madame Monin qui assiste à toutes les séances, qui enregistre le son et qui récupère le fichier de Mathieu Pinette. Et quand le cycle est fini, eh bien je charge tout ça dans la machine. Et là, après, ben, vous avez des choses comme ça, et vous avez documents, voilà. Alors là, on n'a pas fait d'onglet séparé entre le son et l'image, mais c'est dans chaque chose, et on n'a pas mis de petit lecteur. On en mettra certainement un dans l'avenir.
On a les choses projetées à l'écran ?
Ben oui, ben oui.
Elles apparaissent dans le texte ?
Voilà. Et vous avez bien fait de venir, vous voyez tout ce qu'il y a dans le site internet que vous ne connaissiez pas, et alors que vous avez payé la cotisation. Et là, je répète, vraiment dans le cas des ateliers de Mathieu Pinette, il y a vraiment là le fait d'écouter et de regarder en même temps, là vous suivez complètement le fil de l'exposé, puisque vous avez les légendes des tableaux. Donc c'est très facile de se repérer. Et vous avez les commentaires qui vont avec. Voilà. Alors, on a mis, contrairement à la version précédente, on a mis les voyages à part, parce que c'est plus facile d'avoir un accès direct aux voyages. Et donc là, tout simplement, eh bien, à chaque voyage, vous avez le voyage à Burgos, à Bilbao-Burgos, eh bien, le programme apparaît là. Et il est par nature beaucoup plus détaillé que ce que l'on peut mettre sur le bulletin. Et on a une énorme difficulté avec le bulletin papier, c'est que le descriptif des grands voyages, il est extrêmement détaillé, il n'y a pas la place dans le bulletin papier pour l'intégrer. Donc on met simplement les têtes de chapitre et on dit, ben, si vous voulez en savoir plus, venez au bureau et on vous montrera le programme complet. Mais là-dessus, sur le site, on a la totalité des détails. Bien sûr, le programme détaillé plus les conditions financières. ouvrages. Donc vous savez qu'on fait des ouvrages, donc on met les informations sur les ouvrages. Et là, c'est loin encore d'être complètement chargé, parce que bon. Et on a le contact. Donc on peut nous envoyer des messages directement depuis le site internet. Et on a à peu près maintenant une fois par jour en moyenne, quelqu'un qui nous écrit pour nous demander des renseignements ici. Voilà. Alors, je vais quand même vous faire, maintenant, je vais faire un petit cours général, un peu de... qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit cours du navigateur Internet. Puisque je découvre tous les jours que le commun des mortels n'a pas une pratique extrêmement pointue du navigateur Internet. C'est-à-dire, on le sous-utilise. Hein. Alors, là, j'ai une version qui est intéressante parce que vous avez un petit champ de... Alors, ça, c'est la version la plus récente d'Internet, je suppose. C'est Mozilla, ça, c'est Firefox. Hein. Est-ce que c'est ça? Attendez. Alors. Le navigateur Internet, vous savez que pour trouver facilement des choses, on utilise le moteur de recherche et par défaut, très souvent, c'est Google, le fameux Google dont on parle tous les jours. Et là, sur ce navigateur, il y a un petit champ directement. Ça vous évite de taper Google ici, puis de taper... Parce que vous pouvez faire comme ça, vous pouvez taper ici Google... Ça fait ça... Et là, vous avez ça qui apparaît. Alors, l'inconvénient de cette solution-là, c'est qu'une fois que vous avez tapé un champ de recherche, c'est le site sur lequel vous allez qui réapparaît à la place, et vous ne voyez plus la barre de Google. Alors, c'est pour ça l'intérêt d'avoir ces systèmes de petites fenêtres. Alors, dans Mozilla, ça apparaît par défaut. Dans Internet Explorer, ça n'apparaît pas et on peut télécharger ce qu'on appelle une barre Google dans laquelle il y a cette petite case qui vous permet à tout moment de faire une recherche complémentaire. Je vais vous le montrer si vous voulez. Alors, je ne sais pas s'il y a une barre là-dessus. Voilà. Voilà Internet Explorer. OK. Vous voyez, le problème ici, c'est que par défaut, on a mis Bing. Bing, c'est le Google de Microsoft. Il est beaucoup moins performant que Google. Et il est très peu utilisé, hélas. Enfin, hélas pour Microsoft. Là, ils ont mis également le même système, c'est-à-dire il y a un bandeau sur lequel il y a une case qui apparaît en permanence, qui fait les choses comme ça. Ce que je n'arrive pas à voir, là, c'est comment on peut faire... Voilà. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire dans Internet Explorer, c'est faire apparaître des menus traditionnels comme ça. Et ça, pour la partie pédagogique, je vais utiliser ça. Très souvent, quand vous faites des recherches sur Internet, vous avez envie de conserver, d'une manière ou d'une autre, le contenu de ce que vous voyez sur la page. Puis là, vous êtes comme une poule qui a trouvé un couteau en disant « comment je vais faire ?» Alors, le truc le plus simple, c'est de créer un favori, c'est-à-dire de faire un favori ou un marque-page, de dire, eh bien là, cette page-là, je veux la conserver, ajouter au favori. Voilà, et je l'ai ajouté au favori. Et après, quand je vais aller sur les favoris, voilà. Voilà les pages que j'ai déjà, machin. Mais quand vous en avez 10, ça va bien. Si vous en avez des centaines, vous finissez vite par vous paumer dans les favoris, dans tous les onglets que vous avez faits. Vous pouvez faire des dossiers, des arborescences, des choses comme ça. Et si vous ne le faites pas très souvent, bon, ça devient vite compliqué. Alors, une autre façon, c'est de conserver l'image physique de ce que vous voyez ici. Alors, soit vous n'avez pas d'outils sophistiqués, alors je vais en prendre une au hasard, hein, je vais prendre Wikipédia. Hein. Ben, vous voyez, regardez, j'ai fait une faute de frappe. Mais Google, même Bing, il n'est pas bête, hein. Il a vu que j'avais oublié de taper une lettre, et il me dit, ah ben non, c'est plutôt Wikipédia. Hein. Donc je tape là-dessus, voilà. Et je vais faire, donc, je vais aller sur Wikipédia, hein. Puis il y a une page qui m'intéresse, alors une page qui m'intéresse, qu'est-ce que je vais mettre? Chalon. Sur Saône. Voilà. Voilà la fiche de Chalon. Qui va sur la fiche de Chalon?
Moi, j'y suis allée il n'y a pas longtemps.
Ah, ben c'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui vont sur la fiche de Chalon dans la salle? Ben, vous faites bien parce que notre atelier Wikipédia fait modifier les fiches sur Chalon. Donc je fais de l'artap aussi pour l'atelier Wikipédia. S'il y a des gens qui veulent venir travailler avec nous, on leur montrera comment on fait. Hein. Alors, le but de l'opération, c'est essentiellement de mettre en référence les bouquins qu'on a sortis sur l'histoire de Chalon et d'utiliser les contenus pour alimenter la fiche de Chalon. On ne parle pas de l'élan Chalon, on n'est pas très pointu sur le sujet. Hein. Par contre, vous, sur la fiche de Chalon, je vais regarder alors. Alors, elle est très mal faite, hein, la fiche de Chalon, je vous le dis tout de suite. Mais il y a du boulot, mais enfin bon. Mais elle est forcément réactualisée, surtout si c'est vous. Alors, je rappelle que Wikipédia, le principe, c'est les gens qui apportent les informations. Donc, si vous mettez une information sur la fiche Wikipédia, ben, elle y sera. C'est aussi bête que... Voilà. Donc, comme vous connaissez des tas de choses sur Chalon qui mériteraient d'être connues de la planète entière, eh bien, je vous en prie, mettez-les sur la fiche Wikipédia. Si vous ne savez pas faire, vous venez à l'atelier Wikipédia. C'est aussi bête que ça, parce que c'est pas très compliqué à faire. J'essaye de retrouver le chapitre sur lequel on a travaillé, je le retrouve plus. Voilà. Alors, il y a un chapitre qui est apparu, qui s'appelle « Histoire industrielle ». Hein ? Alors, l'histoire industrielle, c'est l'UTB qui l'a écrite de A jusqu'à Z. Voilà. Alors, bon, le but, c'est pas de vous faire un atelier Wikipédia, hein, c'est de... Mais c'est... Alors, par contre, ben tiens, y a un truc... Ah, c'est bien, ça. Mais comme c'est juste là, alors, première solution, je vais imprimer ce que je vois à l'écran, sur un bout de papier. Alors, là, vous imprimez, alors, quand vous... C'est au milieu d'une page comme ça, ben, vous imprimez tout, et c'est... Vous séchez toute votre cartouche d'imprimante. Puis après, les papiers que vous aurez imprimés... Ah ben attendez, je vais vous montrer. J'amène tout doucement la problématique. Alors, voilà. En fait, il n'y a qu'un truc qui vous intéresse, c'est l'histoire industrielle. Alors, comment vous allez faire? Ben là, je vais vous montrer. Et là, j'ai découvert qu'il y a très peu de gens qui savent faire ça. Voilà. Et là, clic droit sur le bleu, copier. Vous ouvrez Word. Et vous faites coller. Et c'est magique. La partie de la page qui vous intéresse a été gardé dans un document Word. Et ce document Word, d'abord, vous allez l'appeler, parce que vous voyez, là, il a la mauvaise idée de s'appeler document 1. Alors, ce n'est pas très explicite. Alors, vous allez faire comme ça, enregistrer sous, extraordinaire, ça apparaît, parce que quand on fait enregistrer sous dans Word, ça prend la première ligne. Alors je rappelle que dans les traitements de texte, enfin dans tous les trucs d'ordinateur, ça prend pas les apostrophes. Donc s'il y a une apostrophe qui traîne dans la première phrase, ça s'arrête à l'apostrophe. Parce que l'apostrophe, c'est un caractère qui est codé sur 8 bits et ça c'est pas pris par l'ASCII. C'est de la technique, ça. Et que voulez-vous, c'est les Américains qui ont inventé Internet, donc eux, il n'y a pas ni d'apostrophe, ni d'accent. Donc c'est pour ça que ça ne passe pas chez nous. Et après, on le classe dans son ordinateur. Et c'est là que j'arrive à un point très sensible de la chose, c'est comment classer les choses dans son ordinateur. Et je découvre tous les jours que Dieu fait, que les gens ne savent pas s'y prendre. Alors, on met vaguement dans mes documents, allez, on fait des répertoires, papy, mamie, les enfants, les machins, les trucs, les bidules, photos, il y a une dizaine de lignes comme ça, puis très vite, chaque fois qu'on a un nouveau document, dans quoi je vais bien mettre ce truc-là? Alors, je rajoute un autre dossier. Et alors là, au bout de quelques années, c'est un inventaire à la Prévert où on passe des choux aux carottes, aux machins, et on ne s'y retrouve plus. Donc, un principe de base, un plan de classement. Et un plan de classement, alors ça, je peux vous faire un exposé, là, je n'ai pas le temps, un exposé très détaillé sur la philosophie des plans de classement. Qui est-ce qui a inventé la notion de plan de classement ? On va dire Aristote ou Platon, comme ça on a... Et c'est un peu vrai d'ailleurs, c'est un peu vrai. Aristote, il a fait des premières ébauches d'encyclopédie, si vous voulez. Enfin bon, la notion de plan de classement au sens du bibliothécaire, c'est Gottfried Leibniz. C'est Leibniz qui a inventé le concept de plan de classement. Et celui qui l'a mis en pratique le premier, eh bien, c'est Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie, puisque le prospectus, l'introduction de l'encyclopédie, dit avant de dire quoi que ce soit, il faut faire un plan de classement pour classer les connaissances humaines. Eh bien, vous voyez, en 2016, le Vulgus Pecum, il ne sait pas encore qu'il faut faire un plan de classement. Donc, j'insiste beaucoup pour faire un plan de classement. Alors, il n'y a pas de plan de classement universel, c'est-à-dire chacun le voit midi à sa porte en fonction de ses objectifs de classement. Alors, moi, je vais vous dire déjà ma philosophie personnelle, mais n'est que personnelle. Je distingue dans mon plan de classement les documents que je fabrique moi-même et les documents que je reçois de l'extérieur. Ça me donne ces deux grandes familles qui me permettent de savoir, en disant « ça, c'est pas un truc que j'ai écrit, c'est un truc qui vient de l'extérieur ». Donc ça me permet de trier déjà dans deux grandes familles. Et ça, ça m'aide beaucoup quand je recherche, d'une façon mnémotechnique, un document, celui-là, ça c'est un truc que j'ai fait, donc je vais le chercher dans mes documents. Deuxième critère que j'utilise, c'est mais ça c'est très particulier, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui faisaient ça, je classe les documents que je fais moi selon les logiciels que j'utilise. C'est-à-dire j'ai une grande famille Word, une grande famille Excel, une grande famille PowerPoint, pour faire court. C'est-à-dire que quand je cherche un PowerPoint que j'ai fait moi-même, je suis sûr, absolument sûr, qui sera dans ma famille PowerPoint. Et là, au niveau du nombre de répertoires que j'ai recherché, j'en ai 6 ou 7. Dans mon ordinateur, j'ai 100 000 répertoires. J'ai 100 000 répertoires. C'est pas moi qui ai compté, c'est l'ordinateur qui a compté. J'ai 100 000 répertoires. Comment voulez-vous qu'avec une philosophie de classement, vous n'ayez pas des règles générales qui vous permettent un petit peu d'aller dans l'océan de ce que vous avez fait. Pourquoi il y a 100 000 ? Ben parce que le volume de ce que je capte à l'extérieur, c'est deux ordres de grandeur par rapport à ce que je fais. Je sais bien que je suis tout le temps collé sur mon ordinateur, mais disons, même en tapant nuit et jour, 24 heures sur 24, j'arriverai jamais à avoir une production telle que je sature mon ordinateur. C'est pas possible. Par contre, si vous faites cette petite opération un certain nombre de fois, eh bien, ça va finir par faire beaucoup de répertoire. Après, je reviens. Donc là, je vais dire, je vais dans documents. Par défaut, ça vous met toujours dans documents. Hein, alors, là, vous voyez, il faut que je fasse un répertoire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais nouveau dossier. Je l'appelle essai UTB. Je clique à l'extérieur. Donc, j'ai créé un répertoire essai UTB. Je vais sur UTB. Je fais ouvrir. Et là, histoire industrielle. Alors, si je garde histoire industrielle de quoi? Dans 2 ans, quand je vais ouvrir ce truc-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire industrielle? Ah, il faut que je rajoute, bien évidemment, je mets là, de Chalon. Le nommage des fissiers est capital. Capital. Il faut renommer Histoire de Chalon. Et je fais enregistrer. Et dans 2 ans, j'ai complètement oublié que j'ai fait cette petit truc là sur cet ordinateur. Je vais dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire? C'est bizarre ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben ça y est, je me souviens, on a créé un fichier qui s'appelle Histoire industrielle de Chalon. Très bien. Ah, très bien. Alors. Mais vous voyez que dans ce fichier Word, vous avez des trucs bleus. Alors, je vais fermer ça. Les trucs bleus, ce sont les liens que l'on voit également sur la page Internet. Si je regarde la page Internet sur laquelle j'étais, je dois être, je ne sais pas où, je suis là. Voilà. Quand je fais ça, je vais sur Schneider, par exemple, hein, ici. Je clique sur Schneider. Ah, je clique. Regardez, je vais cliquer avec le bouton gauche. Hein, c'est-à-dire celui-là, celui où on clique tout le temps. Hein. Je fais ça. Regardez ce qui se passe. Voilà. Clique. Eh bien, ça apparaît la famille Schneider, mais je regarde en haut. Ah ben zut, mon truc Chalon, il a disparu. Ben évidemment, parce que j'ai remplacé la fiche Chalon par la fiche Schneider. Mais moi, je voulais voir Échalon et Schneider. Alors, je viens en arrière. Donc, je revois Chalon. Ah, mais je ne vois plus la fiche Schneider. Comment je fais? J'appuie sur le clic du milieu, la petite molette. Et c'est capital. Capital, la petite molette. Donc, quand vous êtes sur un machin, vous cliquez sur la molette du milieu. Vous faites comme ça. Et c'est magique, l'onglet Schneider apparaît à côté. Et je peux basculer comme ça, en permanence, entre les deux. Vous avez bien fait de venir. Hein. Alors, qui savait ça? Alors ça, ça devrait être dans le cours d'informatique, c'est après 10 minutes, c'est plus important que tout le reste. Plus important que tout le reste. Et ça, je m'en sers des milliers de fois par jour. Enfin, des centaines de fois, allez. Pas exagérer, hein. Etc, etc. Et après, vous y allez, tant que vous en voulez, le maître de forge clique au milieu, et poum, 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 poum. Les onglets s'ouvrent les uns derrière les autres. Il ne faut pas abuser, parce que quand on ouvre... Non, mais je vais... vous voulez que je vous en fasse encore? Virgile Schneider... je vais vous en faire, général. Ah, vous allez me dire un moment, bon, je fais n'importe quoi, hein, là. À un moment, vous allez voir, ben là, ça. Mais on peut les faire glisser. Hein, voilà. Donc, c'est pas un problème. Donc, l'utilisation de l'onglet est capitale. Donc, premier message très fort, le plan de classement. Deuxième message très fort, le nommage des fichiers. J'y reviendrai. Troisième message très fort, utiliser les onglets systématiquement dans la navigation sur Internet.
Et quand on n'a pas de souris, on fait comment ?
Avec quoi ? Eh bien, vous achetez une souris. Vous avez une tablette ?
Oui.
Vous avez uniquement une tablette ? Alors, il y a une commande, il y a une... Ça doit être... attendez, je vais regarder. Nouvel onglet. Attendez, je ne m'en souviens plus. Voilà, dupliquer nouvel onglet, c'est CTRL-T. Donc là, il y a une. Pour l'équivalent de la molette, c'est CTRL-T. Et vous. Hein ? CTRL-T, ça fait ça, je le fais. CTRL-T, pof. Tu veux pas.
Vous ne pouvez pas agir sur tout ce que vous voulez, ni écrire des messages, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, c'est pas ça. Nouvelle onde. Bah si, CTRL-T. Bah si, si, j'ai bien fait un nouvel onglet. C'est bien là, bébé. CTRL-T. Oui, oui, c'est bien ça. Ça a ouvert un nouvel onglet. Donc si vous avez une tablette, CTRL-T. Vous avez bien fait de venir. Hein, je m'en souvenais plus, voilà. Parce que j'utilise la souris. C'est vrai qu'une tablette, pour faire des manœuvres un peu compliquées, c'est moins pratique que la souris. Hein. Donc la tablette, c'est bien pour consulter et lire. Il est vide. C'est un nouvel onglet, il est vide. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais de ces nouveaux onglets ? Ça m'a... Alors je veux à nouveau... qu'est-ce que je vais... tiens, on va pas être jaloux, le Creusot. Boung. Inconnu au bataillon. Oui, il a mis du temps à le chercher. Donc voilà, on tombe sur les recherches du Creusot. Hein, voilà. Donc vous avez compris le système. Alors je reviens sur le nommage. Donc bien important sur le système du nommage. Deuxième règle très importante dans le nommage, si l'information qui est contenue dans le document que vous avez copié sur Internet est liée à une actualité ou à une date, vous mettez la date dans le nom du fichier. Obligatoire. Puisque, en particulier, si vous copiez un article de journal. Parce que l'article de journal, la date, elle est dans l'article, mais quand vous regardez votre répertoire, vous ne savez plus quand ça se trouvait. Donc, je vais dire, là, j'ai eu un moment d'égarement sur les documents. Dans les essais UTB, j'ai fait Histoire universelle de Chalon. Je veux savoir que je l'ai fait le 3 mars. Le 3 mars 2016. Alors moi, j'ai une syntaxe pour les dates. Hein. La plus simple, elle est la suivante. Il n'y a pas d'espace, donc c'est... Oui, alors, voilà. Non, annulé parce que le fichier est ouvert, donc évidemment, il ne veut pas le renommer. Alors, je recommence. Voilà. Et dans 2 ans, quand je redécouvrirai ce fichier que j'ai complètement oublié, en disant d'où ça sort ce machin-là, ah, c'est l'histoire industrielle de Chalon et j'ai fait cette manipulation le 3 mars 2016. Alors là, c'est pas très pertinent parce que l'histoire industrielle de Châlons, ça change pas tous les trois jours. Mais si c'est un événement qui est lié, vous copiez sur un site d'information un article de journal qui est vraiment très ciblé par rapport à l'actualité. Sur le moment, le fait que vous mettiez la date, ça vous apporte pas grand-chose. Par contre, après, quand vous voulez le rechercher, vous êtes bien content de savoir à quelle époque ça s'est situé, si vous voulez faire des recherches, machin. Ah, je vous montre d'autres exemples. Maintenant, le Creusot. Donc, j'ai l'affiche du Creusot, qui est moins pire que celle de Châlons au niveau de la qualité de l'affiche. Zut. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Alors, je vais voir des images du Creusot. On a tout ce qu'il faut, là. Hein. Donc, celle-là, elle me plaît vachement. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer. Alors, comment on fait pour enregistrer l'image? Je fais comme ça. Alors, j'essaye de faire ça. Enregistrer l'image sous. Là, c'est un exemple en or, sans titre. Alors que c'est le pilon du Creusot. Donc, il faut mettre pilon le Creusot. Alors après, je vais aller vérifier ce que j'ai fait. Image. Pilon le Creusot, et je vais regarder les propriétés. Si, c'est bon. Alors, je fais un autre essai. Donc, je fais quelque chose de différent. Je clique sur l'image. Et l'image apparaît plus grande. Et je fais enregistrer l'image sous. Et là, vous voyez, en général, c'est pas sans titre, parce qu'il ne faut pas, c'est ce que je voulais vous montrer, il ne faut pas enregistrer sur la vignette. Il faut enregistrer sur l'image ouverte. Compris? Donc, et là, vous voyez, il y a un nom par défaut, ben, qui est pas mal. Alors ça, c'est le nom typique Wikipédia, c'est-à-dire, ça donne la définition de l'image, 200 pixels, hein, 280 pixels. Ce qui est un peu embêtant avec cette syntaxe, c'est que si vous cherchez le Creusot, ben, ça va trouver 280 pixels. Mais enfin bon, on peut accepter ça. Voilà, enregistrer. Je regarde ce que ça donne ici. Je voulais faire une vérification. Voilà, donc la taille de l'image est la même que celle qui a été enregistrée sur la vignette. C'est ce que je voulais vérifier. Je vais en chercher d'autres. Voilà, je suis tombé par hasard sur un bon exemple. Alors, très très souvent, les images sont nommées par des suites de numéros, de chiffres. Là, c'est 4933. Parce que sur le site où elle était implantée, tout simplement, ben, le gars qui a inventé le site, il a fait un système de numérotation qui était à lui, qui lui paraissait bien pour ça. Lui, ça lui va très bien, vous, ça ne vous va pas du tout. Donc, il est absolument indispensable de renommer le fichier. Donc, quand vous enregistrez une image, comme quand vous enregistrez une page, il faut nommer le fichier. Nommer le fichier, nommer le fichier.
Il faut se méfier que ça ne disparaisse pas tout, parce qu'après, garder quand même une partie de ce qu'on a là.
Non, je vais mettre pilon le Creusot. Alors, comme j'ai déjà mis ça une fois, vous voyez, point JPEG. Alors, je vais mettre 1. Et voilà. Et voilà, c'est très bien. OK ? Donc faites très attention à ça, vous, et après, là je suis en train de les mettre en vrac dans le dossier image, je reviens sur mon laïus de départ, le plan de classement, le plan de classement, le plan de classement. Ok ? indispensable. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un cours Leibnizien sur le plan de classement. Voilà. Je rappelle que Leibniz, dans sa maturité, avait son métier, entre guillemets, il avait tous les métiers du monde, mais il était bibliothécaire du duc de Hanovre, hein, futur roi Georges Ier. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur la navigation dans le machin, fichier. Alors, comment ? Oui, alors justement, je voulais vous parler de ça. J'ai effacé le truc là. Je vais le ressortir. Je suis là. Ah, je reviens là-dessus. Donc, on a fait un fichier Word. Et il y a les liens bleus qui sont là comme ça, comme sur la page internet. Vous allez me dire, ben, ah si, tiens, il y a un petit truc qui apparaît, c'est CTRL-CLIC. Vous appuyez sur CTRL, là, et vous faites le clic gauche. Alors je vais appuyer sur Saint-Gobain, par exemple. Clic. Ouh. Clic. Voilà. On a Gobain. Je vais prendre Framatome plus exactement, tiens. Voilà. Donc vous avez compris, donc les liens que vous avez copiés en faisant la manœuvre copier-coller sont conservés dans le fichier que vous avez enregistré. C'est-à-dire, c'est pas... Alors, vous pouvez encore faire mieux, parce que ça, mais ça, il faut acheter un logiciel complémentaire, c'est acheter Acrobat. Alors, vous avez tous Acrobat Reader, c'est-à-dire le lecteur du fichier Acrobat, mais si vous achetez Acrobat, là, il faut payer un petit peu, comme un Word, ça vous rajoute des boutons dans Word et dans tous les logiciels qui vous permettent de fabriquer des documents PDF qui sont tirés de ça, qui sont après non modifiables. Voilà. Mais enfin, ça, c'est pour le niveau 2, si vous voulez. Hein. Alors, je vais revenir sur l'UTB. On en est où, là ? Bon, encore un quart d'heure et puis on arrête. Alors, donc, si déjà vous avez, qui a pris l'abonnement de 20 euros pour les documents, là, dans la salle ? Une petite moitié. Qui s'en sert ? Les mêmes ? Non ? Oui. Donc, c'est pas pour avoir 20 euros de plus, si vous voulez. C'est vraiment, je vous dis, c'est... Oui ?
Et l'abonnement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Oui, on y vient. J'allais parler de ça, voilà. Alors, maintenant qu'on a mis en place tous ces outils, eh bien, on peut imaginer un système dans lequel les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou des gens qui habitent trop loin, parce que venir à Chalon... de 50 km, on m'a cité un chiffre de 30 km qui était un peu à la limite, là, c'est qu'il faut avoir un amour immodéré de l'UTB pour venir aux conférences de l'UTB malgré leur intérêt extraordinaire. Mais oui, non mais... Voilà. Donc merci d'être fidèle et de venir. Enfin, je reconnais que c'est pas très facile. Alors, on accueille toujours tout le monde, mais on a dit d'une façon un peu discrétionnaire, on va dire, on va inventer un concept qui s'appelle, on n'a pas trouvé de mot génial, on a trouvé le mot adhérent distant. Bon, c'est pas génial, mais enfin bon, ça, on peut le comprendre. Donc au-delà d'une certaine limite géographique qui serait un peu à géométrie variable, parce que je ne veux pas vous faire l'injure, vous êtes une fidèle de l'UTB, vous habitez à 40 km, bon ben, on vous accueille avec plaisir, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez, pour qu'on ait une différenciation entre les deux formules, ce que l'on a fait, notre formule de base avec présence physique, c'est 80 €, et la formule d'adhérent distant, c'est 50 €. Pour que des gens qui, de toute façon, ne viendront jamais, aient un petit tapas, si vous voulez. Hein. Parce que s'ils payent le même tarif que les gens qui sont physiquement aux conférences, c'est pas très attractif, si vous voulez. Donc c'est 50 €. Par contre, s'ils viennent par hasard, on leur demandera de payer un petit écho complémentaire qu'on a fixé arbitrairement à 3 € à la séance pour dire, bon ben, ne faites pas, parce qu'évidemment, quand on a discuté de ça au conseil d'administration, on a dit, si on n'a pas ce système-là, tout le monde va se mettre en adhérent distant, même les gens qui habitent en centre-ville. Et donc, au lieu de recevoir une recette de 80 €, on n'aura que la moitié de nos recettes qui sont à 50 €.
La couleur de la carte est différente.
Et la couleur de la carte est différente. Donc, on a mis en place ce système à titre expérimental qui fonctionne, puisque nous avons des personnes qui sont à Abu Dhabi, à Singapour, qui écoutent qui lisent les conférences de l'UTB. Alors, c'est pas parce qu'ils ont découvert ça sur Internet, ça c'est clair. C'est parce que c'est un adhérent ici qui, c'est le petit-fils, c'est le petit-neveu qui travaille à l'autre bout du monde et qui s'ennuie. Surtout quand vous êtes à Abu Dhabi le soir à la télé, c'est pas fun, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Et pour garder un lien avec la mère patrie, eh bien, on écoute l'UTB. Hein. Voilà, c'est une formule. Alors, on va faire une campagne effrénée de promotion de ça, parce que comment développer ça? Eh bien, c'est d'institutionnaliser l'information sur ce système-là. C'est-à-dire, on va demander à tout le monde de dire, ben, aux personnes que vous connaissez dans votre parentèle et dans vos réseaux d'amis, vous savez, comme ça, parce que vous les connaissez, qu'il y a 10% des personnes qui sont dans ce réseau-là qui sont potentiellement intéressées par nos types d'activités. Et vous savez très bien qu'il y a 90% des gens à qui, si vous dites il y a ça à l'UTB, qui diront « j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas ». Donc ce n'est pas la peine de se fatiguer à leur balancer l'information. Oui, oui, non, non. D'une façon ciblée, on vous demandera dans des mails qu'on vous préparera, des mails standards, si vous voulez, en disant, ben, tiens, moi je suis à l'UTB, je suis très content, il y a de très bonnes conférences, patati patata, vous pouvez à distance écouter, regarder un certain nombre de conférences, et voilà comment ça fonctionne. Pour que ça marche à distance, ben, il faut deux fonctionnalités. Il faut une possibilité de s'inscrire à distance. C'est ce que j'évoquais tout à fait au début sur ce système-là, si vous voulez, qui sera valable aussi bien pour les gens distants que pour les gens dans le Grand Chalon, on va dire. Hein,
en disant, qui habite Saint-Marcel, mais qui n'est pas disponible.
Donc... Et qui s'est inscrite comme ça. Hein. On explique comment ça... Ah, bon, c'est encore un petit peu compliqué pour bien comprendre si on n'a pas la pratique de ces mécanismes. Et comme on n'a quand même pas un chiffre d'affaires ni un flux de paiement extraordinaire, on n'a pas les moyens de se payer un paiement à la carte bancaire. Hélas. Ça coûte trop cher. Donc on fait un système un peu archaïque qui consiste à dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. On s'inscrit et on reçoit un numéro d'adhérent. Les gens le payent en mettant au dos de leur chèque le numéro d'adhérent, et quand on a reçu le chèque, Muriel valide le fait que les gens sont inscrits sur le site. Cette année, on a fait comme ça, mais on a fait un système mixte où on avait en même temps le système Excel et le nouveau système. Alors, c'était un peu la pagaille, parce qu'il y avait des gens qui avaient payé et qu'on n'avait pas mis sur le site, ou des gens qui n'avaient pas payé et qu'on n'avait déjà mis sur le site. Donc, il y a eu un peu de patouillage. Donc, dès l'année prochaine, en principe, il n'y aura plus qu'un tuyau d'entrée pour rentrer dans le système. D'ailleurs, J'en parlais avec Thérèse tout à l'heure. Là, on a un module qui est développé depuis quasiment 6 mois, là, de saisie des inscriptions. C'est-à-dire, maintenant, on ne va plus saisir les inscriptions, même à l'accueil, si vous voulez. On ne va plus saisir les inscriptions sur un tableur Excel. On va les saisir sur un module du site Internet. Donc, on rentrera directement les bonnes informations au bon endroit dans le site Internet. Et il y aura un bouton pour imprimer la carte d'adhérent exactement comme on l'a maintenant sur la machine. Et ça, en plus, ça permettrait, si vous voulez, de faciliter. Alors, on sait bien qu'il faut que les gens... D'abord, il faut que l'équipe de nos bénévoles se mette dans le coup. Donc, on a un module d'apprentissage, et on a des séances de formation. Parce que pour le moment, on va dire, je sais à peu près m'en servir, Muriel un peu moins et les autres pas du tout, hein, pour faire court. C'est pas très compliqué, hein, c'est des masques de saisie avec des noms, prénoms, date de naissance, c'est exactement les informations que vous donnez maintenant, mais au lieu d'être sur une ligne horizontale, eh bien, c'est sur des formulaires où on remplit les champs vides au fur et à mesure de la chose. Et puis on passe d'un écran à l'autre, et puis toutes les informations sont rentrées au bon endroit, dans les bonnes cases de la base de données. Donc une fois que ce système sera en place, plus le fait de pouvoir payer à distance avec le système du chèque et le numéro d'adhérent, eh bien on va pouvoir inonder la planète entière des conférences de l'UTB. Alors c'est pas simplement parce qu'on veut se prendre pour le centre du monde, quoique, c'est tout simplement, ben, je rappelle quand même que, essayez d'imaginer, nous avons 680 adhérents cette année. Essayez d'imaginer simplement qu'on ait 100 adhérents distants, c'est quand même pas un objectif absolument époustouflant. 100 multiplié par 50, ça fait 5000 euros. 5000 euros, c'est notre amortissement des investissements et c'est le double de notre des excédents que l'on fait les bonnes années. Donc, si vraiment l'adhérent distant démarre comme ça, à terme, ça peut empêcher, sinon faire diminuer la cotisation de base. Donc il y a même un intérêt... oui, vous comprenez bien, si vous voulez... parce que supposer que par un truc extraordinaire, on fasse exactement un chiffre d'affaires complémentaire qui soit égal à celui qu'on fait avec les adhérents locaux, on peut diviser la cotisation par deux pour faire court. Non, mais bon, alors il faut pas rêver, mais si vous voulez, vous voyez en dehors de diffuser nos activités, on est quand même les seuls. Personne ne fait ça, ni à Dijon, ni dans les autres UTB. Donc on est quand même en pointe vis-à-vis de ça. Donc ça nous fait mieux connaître, etc. On escompte un effet boule de neige, si vous voulez. Il y a bien sûr la carotte financière, mais il y a aussi la carotte, j'allais dire intellectuel, sur le fait que les gens sachent la programmation que l'on a. Il y a un monsieur là qui est venu, il n'y avait pas beaucoup de monde, ceux qui n'étaient pas là hier soir sur l'histoire de Solvay, ben, c'était les absents toujours tort, c'était excellent. Donc vous l'écouterez sur Internet. Hein. Il y a même des petites vidéos qu'on va essayer de mettre, il y a des petits problèmes techniques là. Donc, c'est un jeune de thésard d'histoire industrielle là, qui était brillant et qui a très bien expliqué. Donc, vous l'écouterez sur le site. Tu confirmes, tu étais là, et c'était très bien, hein, sa conférence, hein, très intéressant. Et voilà, bon. Donc, c'est aussi un cas, ben, oh, je sais pas, venir vivre le soir, ça me casse les pieds et tout. Mais ça m'intéresse quand même. Bon, si j'ai un petit moment, bon, je l'écouterai dans le poste. Hein, voilà. Hein. Bien, écoutez, c'est un peu décousu, mais enfin, je pense avoir balayé un peu tous les sujets. On peut poser des questions, hein, c'est pas défendu. Hein. Ah si, je vais terminer avec ça, puisque j'avais... Donc, je vous montre l'équivalent sur... Est-ce qu'on voit le truc, là ? Non, il faut que j'appuie sur le bon bouton, là, voilà. Là, voilà. C'est bon, là, vous le voyez, là ? Oui, bien. Alors, voilà la façon dont ça se présente sur un smartphone. Et vous voyez, il n'y a plus d'image parce que sur le smartphone, il ne faut pas qu'il y ait des chargements qui durent trop longtemps. Donc, c'est le strict minimum. Et comme il n'y a pas la place pour mettre des menus dans le sens large, puisque le smartphone, c'est tout. Je peux le mettre comme ça, si vous voulez. Bien sûr. Voilà, je peux vous le mettre comme ça. Mais... Alors là, vous voyez, c'est plus large, mais on voit plus le texte. Donc c'est mieux de le regarder comme ça. Allez. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on fait, tout simplement? Alors là, pour voir les premières conférences, il faut faire pareil. C'est exactement le même système. Hein. Et si je veux voir la conférence d'aujourd'hui, j'appuie là-dessus. Voilà. J'ai l'explication. Hein. Le résumé comme sur le site principal, j'appuie sur le nom du conférencier, c'est bien moi, il n'y a pas de doute. Hein ? J'ai une sale tête là. Alors ensuite, il y a exactement les mêmes fonctionnalités, menu, je vais aux conférences, les conférences à venir. Et je vois toutes les conférences jusqu'à la fin de l'année 2015-2016. Voilà. Exactement similaire. Et vous comprenez maintenant pourquoi on met des grosses lettres comme ça. Parce que sur le smartphone, on arrive à les lire. Vous avez sûrement vu des sites à l'ancienne qui sont écrits extrêmement petits. Quand vous les regardez sur votre tablette ou votre smartphone, il faut agrandir au maximum, c'est pas pratique du tout. Donc la taille du texte est telle, et la longueur du texte est telle que c'est lisible sur ces petits appareils. Donc avant de venir, vous qui avez tous maintenant votre petit iPhone et votre petit Samsung, là, vous cliquez sur UTB Chalon, voilà, et puis vous regardez, et puis là, il y a une annonce, et la conférence est annulée. Donc, je ne viens pas. Vous avez compris, hein?
Enfin, ce qui est bien en même temps, c'est que pour ceux qui vont journellement sur leur messagerie, c'est que vous annoncez les annulations.
Ça, on le fait. On le fait systématiquement, mais encore faut-il, vous allez me demander d'envoyer des SMS. Je le vois gros comme une maison, hein. Mais pourquoi pas, on va finir par y arriver. Hein.
Les mails viennent sur les smartphones.
Oui, mais les mails, encore faut-il regarder les mails.
Oui, mais on l'a sur son smartphone.
Oui, pas tous. Moi, je suis hostile aux mails sur le smartphone, mais enfin bon, chacun son truc. Il y a d'autres questions? Je vous ai épuisé. Alors je le dis volontairement, si le genre de petit exposé que je vous ai fait vous paraît intéressant, reparlez-en autour de vous en disant, est-ce qu'il y a une demande? Il y a à peu près une quarantaine de personnes. Ça fait, allez, 7-8% de l'UTB. Alors j'en déduis que soit tous les autres savent très bien s'en servir, soit ils s'en servent pas. C'est deux. Si ça vous a appris quelque chose, si j'ai au moins fait passer le clic central pour les onglets, j'ai gagné mon après-midi. Hein? Voilà.
Hein?
Oui, oui, oui.
Vous dites, on a une carte,
oui.
Et vous ne nous pointez pas pour les conférences.
Oui.
Est-ce que vous avez des statistiques de fréquentation des conférences?
Oui, 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 oui.
À l'époque, on le faisait régulièrement.
Alors maintenant, on fait plus de comptage physique parce que c'est casse-pied, puis c'est plus ou moins, bon, ça n'a pas un intérêt. Mais je fais un comptage visuel. C'est-à-dire, je connais la jauge des salles et simplement un coup d'œil, si vous voulez, ici la salle, tous les sièges occupés, ça fait 186 personnes. On l'a eu une fois, c'est la conférence de Jean-Claude sur la Grotte Chauvet. Là, toutes les places étaient prises. J'en ai profité pour compter toutes les têtes, si vous voulez. Donc là, ça, en fonction de ce que je vois, là, je vous compte pas, mais vous êtes 40 personnes. Et si on fait le comptage, je me trompe au pire de 5, si vous voulez. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de donner une jauge générale. Et donc...
Il y a
Parce qu'il y avait sûrement des personnes qui n'étaient pas adhérents.
Voilà. Mais ça, bon, alors, chaque chose en son temps, on ne peut pas...
La conférence, c'est, oui. C'est bien, c'est la bonne chose.
Oui, hein.
Mais est-ce qu'il, dans la durée,
oui.
Il ne serait pas envisageable de donner à ceux qui s'inscrivent un manuel de la pratique de l'UTV ?
Si. Si.
On a les manuels...
Le manuel, il est déjà dans le...
J'ai téléphone, j'ai un manuel avec...
Alors... T'as plein de manuels, mais tu les lis jamais. Alors, c'est bien. Alors, les manuels, ils sont là. Alors, je reviens en arrière. Dans un certain nombre de pages, on a mis une petite chose qui s'appelle aide. T'as jamais vu ça encore ? Là, aide. Je suis dans conférence. Aide. Tout ce que je vous ai raconté est écrit là. Depuis un an.
Sur les manuels, quoi, qu'il y a à faire, hein.
Tu cliques sur aide avec point d'interrogation ici à droite, en haut à droite. Là. Hein ?
Il apparaît quoi ?
Ça ? Je recommence. Aide. Inscription. Aide. Aide. Donc sur chaque page, il y a un bouton d'aide que vous n'avez jamais vu, qui existe depuis un an. Donc c'est ce que je vous ai raconté, c'est en blabla ce qui a marqué dans ces pages d'aide. Donc vous avez bien fait de venir, tu as bien fait de poser la question. Hein? Il y a d'autres questions? Non mais faites, parce que moi je veux bien, parce qu'en fait c'est pas difficile à faire, le manuel de base pour utiliser le site, et il suffit que je fasse une pile de toutes les pages d'aide, et puis ce sera pareil. Hein? Oui, alors, non mais, j'insiste, si vous, en discutant avec vos collègues à l'occasion à la rotonde, à la maison des syndicats, on discute les uns avec les autres en disant, ben, il nous a raconté des choses qui nous ont appris quelque chose, parce que ce n'est pas pour m'écouter, hein. Moi, je veux bien essayer, pourquoi j'ai fait cette séance, je vous l'ai dit, on a une conférence qui a été annulée à la dernière minute. Donc j'ai utilisé le créneau vide, hein, pour faire ça, parce que j'ai pas de préparation à faire, quoi. Je vous le fais là, hein, comme ça. Oui. La première page de. Oui. Eh ben voilà. Normalement, quand on n'est pas connecté, c'est comme ça. Quand on n'est pas connecté, c'est comme ça. Et on a connexion. Et là, il y a une petite boîte qui arrive, et où on met son identifiant, qui est toujours son mail, celui qu'on a donné à l'UTB. Alors là, je l'ai enregistré sur la bécane, voilà. Et après, on tape son mot de passe.
Et après, ce sera sans arrêt. Il aura besoin de le rappeler sans arrêt.
Si on dit d'enregistrer le mot de passe. Voilà, validé. Et il me demande si je veux l'enregistrer. Je ne veux pas l'enregistrer parce que c'est le PC de l'UTB, de l'IUT. Donc je dis non.
Si on veut oui, on est
enregistré sur... Ben, il va être enregistré sur cette bécane.
Oui, d'accord. Non, sur le site.
Voilà, mais voilà. Et donc je ne veux pas être enregistré sur cette bécane. Voilà, et après, quand vous allez ouvrir le navigateur, vous serez bonjour monsieur, et voilà, avec votre nom. Hein? Normalement. Bon, on éteint.